Bonsoir à toutes et à tous. Vous êtes bien sur Radio Orient. Il est 17h, votre rendez-vous d'information avec Nawal El Amouchi. Au sommaire de cette édition, le verdict est tombé pour Marine Le Pen. Elle est condamnée en seconde instance à 45 mois d'inéligibilité, dont 30 mois avec sursis dans le dossier des assistants parlementaires européens du Front National. En Syrie, au deuxième jour de la visite d'Emmanuel Macron à Damas, deux bombes ont explosé ce matin à proximité de son hôtel. 18 personnes ont été blessées. Le chef d'État est sain et sauf et sa visite se poursuit. Retour en France où la vague de chaleur, la deuxième en trois semaines, va encore gagner du terrain vers le nord et l'est avec 67 départements en vigilance orange canicule demain et un risque élevé d'incendie sur près de la moitié du pays. Nous l'avons évoqué dans les titres, le verdict est tombé pour Marine Le Pen, présidente du groupe Rassemblement National à l'Assemblée nationale, est condamnée en seconde instance à 45 mois d'inéligibilité, dont 30 mois avec sursis dans le dossier des assistants parlementaires européens du Front National. Condamnée en mars 2025, la triple candidate à la présidentielle a de fait déjà purgé sa peine de 15 mois ferme d'inéligibilité. Elle est donc éligible pour la prochaine élection présidentielle. François-Xavier de Calonne, hein, vous êtes là pour nous éclairer sur la situation.
Absolument, pour l'éclaircir même on peut dire. Mais attention, hein, pas si vite Noël. Marine Le Pen a en effet, oui c'est vrai, le champ libre pour être candidate. Mais ça c'est le fait juridique. Mais il y a la justice et la politique. Et politiquement, eh bien c'est une toute autre histoire. Imaginez une candidate en campagne sous bracelet électronique, une candidate qui ne serait pas considérée comme libre mais comme une personne écrouée, non détenue. Cela serait du jamais vu dans une démocratie. Avant l'arrêt rendu cet après-midi, Marine Le Pen avait estimé à plusieurs reprises qu'il ne lui serait pas possible de faire campagne sous bracelet électronique. Marine Le Pen va-t-elle changer de position ? Réponse, peut-être, ce soir, dans le journal de TF1.
Et une personne va avoir un rôle quasi déterminant.
Hein. Et oui, un acronyme, le JAP, J-A-P, le juge d'application des peines. C'est lui qui décidera des horaires stricts de présence de Marine Le Pen chez elle. Or, si elle était candidate, elle ne pourrait donc probablement pas faire campagne dans les départements d'outre-mer, par exemple. Elle ne serait pas libre de choisir les lieux et les heures de ses réunions publiques. Prenons par exemple le cas de Nicolas Sarkozy, l'ancien président, condamné lui aussi à une peine de prison sous bracelet électronique en décembre 2023 pour corruption et trafic d'influence dans l'affaire des écoutes téléphoniques. Eh bien, il avait eu l'autorisation de quitter son domicile entre 8h et 20h.
Est-ce qu'on peut imaginer une candidate qui ne serait pas libre de ses mouvements, une candidate avec un casier judiciaire ?
Eh bien malin serait celui qui anticipera la décision de Marine Le Pen. Impossible non plus d'être certain d'avoir la réponse ce soir. Son sort pourrait aussi être entre les mains de ce fameux juge d'application des peines, cette personne qui décidera de l'ampleur des restrictions, des mouvements de cette figure du Rassemblement National, la fille de Jean-Marie Le Pen. Alors reste l'alternative Jordan Bardella. Et là, il a passé l'après-midi avec Marine Le Pen. Rien n'est sorti de leur discussion au siège du RN. Peut-être juste un léger sifflement dans les oreilles de l'une et de l'autre, hein, car au Rassemblement National, eh bien, tous n'ont pas la même opinion sur l'un des deux candidats potentiels, Nawal.
Merci beaucoup François-Xavier de Calonne. Et en effet, c'est beaucoup plus clair. Nous l'avons évoqué dans les titres en Syrie maintenant, au deuxième jour de la visite d'Emmanuel Macron à Damas. Deux bombes ont explosé ce matin à proximité de l'hôtel où le chef de l'État a passé la nuit. 18 personnes ont été blessées tandis que le président est sain et sauf et poursuit sa visite. La première visite d'un président français depuis celle de Nicolas Sarkozy en 2009. Clara Dumanche, peut-on qualifier cette visite d'historique ?
Effectivement, Nawel, cette visite a tout d'historique. Plus encore que la première visite d'un président français depuis 17 ans, Emmanuel Macron est le premier dirigeant occidental à revenir en Syrie depuis la chute de Bachar al-Assad fin 2024. À l'ordre du jour, s'entretenir avec le président Hamad al-Shara de la reconstruction du pays, car après plus de 13 années de guerre civile, ayant isolé la Syrie de la scène internationale, le pays est dévasté. Et la Banque mondiale estime le coût de reconstruction à au moins 200 milliards d'euros, une reconstruction à laquelle la France entend participer. On écoute Emmanuel Macron en conférence de presse à Damas ce midi.
Il est nécessaire qu'à la dictature succède un véritable état de droit. Cela seul permettra la construction d'une nouvelle Syrie et la prospérité de cette dernière. La France a des attentes, vous le savez, des espoirs, des intérêts aussi. En retour, la Syrie a raison de lui demander de s'engager concrètement. Et c'est ce que nous faisons au travers du partenariat global que nos ministres viennent de signer. Et c'est aussi le sens des nombreux accords que nous avons conclus. Tout cela témoigne de nos intérêts communs.
La prise de parole du président de la République aujourd'hui. En plus des relations économiques, les deux homologues se sont accordés sur la reprise le plus tôt possible des relations diplomatiques. Depuis 2012, un an après le début du conflit en Syrie, les portes de l'ambassade de France sont restées fermées. Et ce soir, les présidents français et syriens atterriront à Ankara, en Turquie, pour le sommet de l'OTAN. Là aussi, le dossier syrien pourrait bien être au rendez-vous.
Merci Clara Dubanchet pour toutes ces précisions. Et on reste au Moyen-Orient. Le Qatar a condamné une attaque contre l'un de ses méthaniers alors qu'il transitait au large des côtes d'Oman et renvoie la responsabilité à l'Iran. Et en Iran, justement, une marée humaine est descendue aujourd'hui dans les rues de la ville sainte de Qom, au sud de Téhéran, au quatrième jour des obsèques du défunt guide suprême Ali Khamenei. Dans le reste de l'actualité internationale, le chef de l'OTAN a annoncé plusieurs contrats d'armement dans l'espoir de convaincre Donald Trump du sérieux des Européens à renforcer leur capacité de défense au premier jour d'un sommet de l'Alliance à Ankara, en Turquie. Retour en France, la vague de chaleur qui étouffe des millions de Français, la deuxième en trois semaines, va encore gagner du terrain vers le nord et l'est avec 67 départements en vigilance orange canicule demain et un risque élevé d'incendie sur près de la moitié du pays. L'incendie dans les Pyrénées-Orientales qui a parcouru 4900 hectares près de Perpignan et provoqué l'évacuation de 12 000 personnes n'a pas progressé pendant la nuit grâce notamment à des contre-feux allumés par les pompiers. La situation s'améliore d'heure en heure selon un responsable des pompiers. Et encore dans un état satisfaisant, il y a quelques semaines, les nappes phréatiques du pays ont vu leur état se dégrader à cause du manque de pluie persistant et de la canicule de juin. Plus de la moitié présente désormais des niveaux sous les normales. Dans un tout autre volet maintenant, le gouvernement a présenté hier un plan de 55 mesures contre le racisme, l'antisémitisme et les discriminations liées à l'origine. Cette année, ce plan est porté par la délégation interministérielle à la lutte contre le racisme et il a été présenté par la ministre chargée de la lutte contre les discriminations, Aurore Berger.
La chose qui a évolué entre le précédent plan et aujourd'hui, c'est le rajeunissement. C'est vraiment ça qui frappe aujourd'hui le plus. C'est-à-dire qu'on a des victimes de plus en plus jeunes, mais si les victimes sont de plus en plus jeunes, c'est parce que les auteurs d'actes ou d'infractions antisémites, racistes, de discrimination sont eux-mêmes de plus en plus jeunes. Et donc ça suppose aussi d'adapter la réponse, parce que ça n'est pas la même chose quand vous avez affaire à quelqu'un qui a 12 ans, 13 ans, 15 ans, et quand vous avez affaire à un adulte. Quand on parle par exemple de stage de citoyenneté, se dire que des primo-auteurs d'actes de racisme ou d'antisémitisme, d'insultes racistes ou antisémites, vont aller réaliser un stage de citoyenneté, par exemple au Camp des Milles, à Aix-en-Provence, au Mémorial de la Shoah, ou dans un site par exemple sur la mémoire de l'esclavage, c'est faire prendre conscience à notre jeunesse qui a commis ce délit, parce que ça n'est pas de l'opinion, évidemment, le racisme ou l'antisémitisme, de mesurer le propos qui a été porté, la blessure que ça fait et la référence aussi historique que ça convoque. Donc je pense que c'est vraiment ça, sans doute, qui nous a le plus interpellé dans la construction du nouveau plan.
Justement, l'année prochaine, en 2027, sera commémoré le 20e anniversaire de la panthéonisation des justes. Ce sera un événement très important qu'il conviendra, j'imagine, pour vous de mettre en lumière. Comment est-ce que vous allez faire ?
D'ailleurs, c'est l'une des mesures et préconisations que nous avons dans le plan national qui est sur la question justement du 20e anniversaire de la panthéonisation des justes et qui est quelque chose d'essentiel aussi quand on convoque la mémoire. Il y a la mémoire des crimes. Et je pense qu'il faut que nous soyons en capacité de regarder notre histoire en face. Ça ne nous affaiblit pas de regarder notre histoire en face. On l'a fait très récemment sur la question de l'esclavage, de la traite négrière avec l'abrogation du Code noir. On le fait évidemment sur la question de la Shoah. On l'a fait très récemment aussi sur le génocide au Rwanda. Mais on a aussi, face à ces crimes, celles et ceux qui ont permis justement de ne pas rester dans l'indifférence et qui ont été reconnus juste parmi les nations. Et donc on va travailler tout au long de cette année 2026 sur ce 20e anniversaire qui est pour nous extrêmement important.
Et c'est un plan qui perdurera après l'élection présidentielle ?
C'est un plan qui a vocation justement à être construit en anticipation 2026 jusqu'en 2029.
Aurore Berger, ministre chargée de la lutte contre les discriminations, au micro de François-Xavier de Calonne. Et enfin, on termine cette édition avec le Point Mondial, avec nous Salma Dakhlaoui. Bonjour.
Bonjour à tous.
Il reste donc plus que deux rencontres avant de connaître le tableau complet des quarts de finale. Les derniers billets se jouent aujourd'hui, avec notamment une Argentine favorite face à l'Égypte.
Oui, tout à fait, Noël. Le Mondial 2026 poursuit aujourd'hui ses huitièmes de finale avec les deux dernières affiches avant les quarts. À 18h, heure française, l'Argentine affrontera l'Égypte. Champion du monde en titre après leur sacre en 2022, les Argentins partiront favoris face à une sélection égyptienne qui rêve de créer l'espoir et de poursuivre son incroyable parcours dans la compétition. Les pharaons sont d'ailleurs la dernière nation africaine encore en lice avec le Maroc et pourraient devenir la deuxième sélection du continent à rejoindre les quarts de finale. Cette rencontre pourrait également avoir une saveur particulière. En cas d'élimination de l'Albi Céleste, Lionel Messi pourrait disputer le dernier match de sa carrière internationale. Une page de l'histoire du football pourrait alors se tourner. Suivra ensuite à 22h la rencontre entre la Suisse et la Colombie. Les deux sélections tenteront de décrocher leur dernier billet pour les quarts de finale et de rejoindre les six équipes déjà qualifiées. Et enfin, le Maroc retrouvera la France en quart de finale ce jeudi à 22h. Une rencontre très attendue entre deux équipes qui ont impressionné depuis le début de cette Coupe du Monde et qui rêvent désormais d'une place dans le dernier carré.
Merci Salma Dakhlaoui pour ces précisions. Un coup d'envoi donc pour Argentine-Égypte dans environ 50 minutes. C'était votre rendez-vous d'information. Merci à vous, chers auditeurs, pour votre écoute et je vous souhaite une excellente suite des programmes sur Radio Orient.